Candide et les experts. Une émission produite par Monique Fauché.
Voilà, bonjour à tous. J'ai le plaisir d'accueillir Stéphane Astier, professeur émérite de l'Institut national polytechnique de Toulouse et au laboratoire plasma et conversion d'énergie de l'Université Paul Sabatier, expert reconnu des énergies et du développement durable. Et voilà pourquoi il nous a rendu visite et vient nous parler des énergies, sujet brûlant actuellement, quoique nous sommes peut-être en passe de trouver des solutions au problème du détroit d'Ormuz. Enfin, ne plaisantons pas là-dessus. Stéphane Astier, aujourd'hui, quelles sont les sources d'énergie les plus utilisées ?
Oui, bonjour. Comme on l'a déjà évoqué, les sources d'énergie massivement utilisées aujourd'hui sont ces combustibles fossiles. Et dont on sait quand même de maintenant, dont on a montré depuis plusieurs années qu'ils nous posaient un problème. Ces combustibles fossiles, donc le charbon, le pétrole, le gaz, principalement, leur utilisation a pour conséquence voilà, une émission massive de ce qu'on appelle des gaz à effet de serre, en particulier du dioxyde de carbone. Et ces gaz à effet de serre, donc ce carbone, il y a d'autres gaz à effet de serre que l'on ramène à du dioxyde de carbone équivalent. Donc on va parler essentiellement de dioxyde de carbone.
Ça veut dire aussi qu'on est tributaire, comme par rapport au pétrole, on est tributaire d'autre pays aussi.
Oui, alors ça on va y venir. Précisément. Donc... L'utilisation majoritaire de ces combustibles fossiles, qui sont des molécules carbonées, a pour premier inconvénient de faire qu'on accumule une quantité croissante de carbone dans l'atmosphère.
De pollution, donc.
De carbone, je ne qualifie pas.
Vous ne voulez pas utiliser le mot pollution.
Alors, après, il y a des pollutions, mais il y a différentes formes de pollution. Une conséquence de cette accumulation de dioxyde de carbone dans l'atmosphère, c'est que ça modifie le climat de la planète, l'équilibre climatique de la planète, et qui a tendance à se réchauffer.
Donc, on le voit, excusez-moi, mais actuellement, on le voit. Dans le Soudan, au Soudan, c'est terrible.
On le voit même chez nous, oui, avec chez nous, des phénomènes climatiques de plus en plus violents, dont les scientifiques sont toujours prudents pour attribuer les causalités ne sont pas évidentes, il ne faut pas les confondre avec les corrélations, mais tout de même, et surtout que ça vient après que, à de nombreuses reprises depuis 40 ans, on est annoncé les méfaits de ce réchauffement probable qui aujourd'hui est mesuré. On est en train de... On estime qu'on atteint les quasiment plus 1,5 degré de réchauffement par rapport à l'ère pré-industrielle. Et on nous met en garde, quand je dis « on », ce sont les scientifiques, nous mettent en garde depuis plusieurs années, plusieurs dizaines d'années, sur le fait que si on veut maintenir une terre telle qu'on la connaît, vivable, pour nous et pour les formes de vie actuelles
pour
sur
les
Terre,
cultures,
il ne faudrait
exemple, aussi,
pas un réchauffement supérieur à 2 degrés. Et ce réchauffement correspond à une certaine quantité de carbone stocké dans l'atmosphère. Et par rapport à ça, on a introduit récemment la notion de budget carbone, c'est-à-dire la quantité de carbone qu'on peut encore mettre dans l'atmosphère pour limiter le réchauffement à une certaine limite.
Par exemple, Stéphane Astier, excusez-moi, je vous arrête. Budget par carbone, c'est au niveau national ou
mondial.
Mondial.
C'est au niveau mondial parce que
et
si
tout
vous
le
voulez,
monde est d'accord.
Ça se non mais ça c'est pas une question d'être d'accord, c'est ce qui est évalué si vous voulez scientifiquement.
Oui. Okay.
Voilà. avec des intervalles de confiance, voilà. Donc, avec justement un intervalle de confiance de 50%, vous voyez, donc ça veut dire qu'il y a de la marge d'incertitude, on estime, par exemple, qu'en 2024, le budget, pour donner, pour être plus concret, le budget carbone restant pour un réchauffement global de 1,5 degré, en fait, on y est quasiment aujourd'hui, il était encore de 275 milliards de tonnes de dioxyde de carbone équivalent. Sachant que l'année dernière, on a émis 38 milliards de tonnes de dioxyde de carbone équivalent. Alors, il y a une partie qui est absorbée par les puits. Bref, si on, par rapport à ça, dans cet intervalle de confiance, on dit que il nous restait en 2024 environ 7 ans avant que la limite des 1,5 degrés de réchauffement soit franchie. Pour 2 degrés de réchauffement, je vais directement à 2 degrés, il nous resterait à peu près 1200 milliards de tonnes de carbone qu'on peut encore mettre dans l'atmosphère. Ça est ce qui nous laisserait à peu près 28 ans devant nous. Alors, aujourd'hui, par rapport à ça, la conséquence, c'est qu'on se dit quand même, si on veut effectivement limiter le réchauffement climatique,
il faut dès
à présent s'engager dans une voie qu'on recouvre du vocable transition énergétique, qui consistera à ne plus accumuler comme ça autant de carbone dans l'atmosphère. Et même, alors c'est ce qu'on appelle le net zéro émission en 2050, ne plus émettre de carbone, enfin plus précisément ne plus accumuler de carbone dans l'atmosphère en 2050. C'est-à-dire que si on en émet encore, tout ce qui est émis serait absorbé par des puits naturels ou artificiels, par des nouvelles technologies qu'on appelle capture du carbone ou autre. Et donc, on est face à ce problème. Avec cette utilisation massive des combustibles fossiles, un problème qui a dépassé au cours des 40 dernières années le problème qu'on posait il y a 40 ans, qui était celui de l'épuisement. En fait, on est au-delà, et le rapport du GIEC, le cinquième rapport du GIEC de 2014, a montré que on avait déjà identifié en termes de réserves exploitables techniquement et économiquement, au niveau des gisements de pétrole, de gaz et de charbon, cinq fois plus de carbone que ce qu'il faudrait mettre dans l'atmosphère pour limiter le réchauffement à 2 degrés. Et ainsi, donc ça, ce rapport, il date de 2014. En 2015, il y a eu les accords de Paris, engageant, dans laquelle tout un ensemble de pays se sont engagés à lutter contre le réchauffement climatique.
Et dont sont retirés voilà, les États-Unis récemment.
Voilà, dont les États-Unis se sont retirés. Mais beaucoup de pays ont ratifié ces accords de Paris de 2015. Des accords qui, avec le recul de 10 ans, on observe qu'ils ont malgré tout porté leurs fruits. Même si tout n'a pas été respecté, des efforts ont été engagés et ils ont porté leurs fruits. Éventuellement, j'y reviendrai plus précisément. Et en 2021, l'Agence internationale de l'énergie indiquait que, logiquement, si on veut lutter contre le réchauffement climatique, par conséquent, il faudrait envisager véritablement la sortie des combustibles fossiles. Mais là, c'est un défi énorme parce que je reviens sur ce que j'ai déjà dit. Le développement, les imaginaires de progrès tels qu'on les a construits au cours du XXe siècle sont étroitement associés à l'exploitation massive du pétrole pour les transports, du charbon pour l'électricité, etc.
Et est-ce qu'il n'y a pas aussi des intérêts majeurs de certains pays comme la Russie et les USA?
Mais oui, mais ceci va avec cela. Et alors précisément, un deuxième point majeur de ce secteur de l'énergie qui est très dominé par les fossiles, Donc le premier, c'est le problème du dérèglement climatique, réchauffement. Et le deuxième, c'est précisément une dépendance et des intérêts différents au niveau géopolitique, hein, je dirais, que l'on mesure cruellement et très concrètement actuellement. Et plus on le disait, mais on mesure plus. Alors on le savait, par exemple en France, on sait depuis longtemps que la facture en moyenne, la facture annuelle, notre facture annuelle en importation de fossiles, au niveau des énergies finales, les énergies qu'on utilise concrètement, l'essence qu'on prend à la pompe ou le fuel qu'on prend pour se chauffer ou le gaz pour se chauffer, ben, la facture globale, toutes ces énergies primaires, on les importe pour les utiliser au niveau final et ça représente entre 50 et 70 milliards d'euros annuellement. Hein. Donc ça pèse très lourd sur notre balance commerciale. Et en fait, il y a des différences entre les pays, mais à peu près tous les pays sont très dépendants des fossiles. Donc globalement, tous les pays sont à peu près face à la même problématique. C'est pour ça qu'elle est vraiment partagée au niveau mondial, même si après...
Après, il y a les chefs d'État.
Oui, et puis elle va se décliner différemment, malgré tout, suivant les pays.
Exactement.
Mais tous les pays sont confrontés, soit comme consommateurs, soit comme producteurs. On peut être dépendant pour sa richesse en tant que producteur.
Évidemment. Un grand merci, Stéphane Astier. Nous n'avons pas fini de parler, en tout cas, de l'énergie et des énergies. Je vous donne rendez-vous, si vous voulez bien, la semaine prochaine.
Volontiers,
merci. Au revoir et merci.